Actu SF, les podcasts.
Je reviens d'un thème sur la surpopulation, je crois qu'on est en plein dedans là en fait.
Tout à fait. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour cette conférence. Donc de 1918 à 2018, la guerre mondiale dans l'imaginaire de science-fiction. Il reste un peu de la place pour les gens qui arrivent tout devant, si vous voulez vous rapprocher de nous. Alors on va parler de sujets très, très sérieux ou pas, avec deux auteurs de science-fiction, un plutôt d'imaginaire et de polar, mais un peu de science-fiction. Donc déjà Laurent Genefort, vous êtes auteur depuis maintenant quelques années. Vous avez écrit Spire, une trilogie chez Critique, et on vous connaît pour le cycle d'Omal, qui est chez Folio SF. Et Patrick Dounet, on vous connaît dans du polar et aussi dans de la fantasy. Dans du noir, hein, plutôt. Vous avez écrit L'Enfant Poussière aux éditions du Diable Vauvert. Le numéro 2 est là aussi, je crois, il est sorti.
Oui, La Peste et la Vigne. Tout à fait.
Très bien. Et on vous retrouve tous les deux dans l'intégrale des Utopiales sur les nouvelles, c'est ça?
Oui.
Très bien.
Lanto.
Parfait. Parfait, parfait. Et vous êtes en dédicace tout à l'heure à 16h pour l'un. Je crois que c'est toi, Patrick, et 16h30 pour l'autre, en bas. Et il y a aussi les romans. Donc, si vous voulez vous faire dédicacer, n'hésitez pas. Et moi, je suis l'œil de Chéri, et je suis journaliste pour le magazine Le Point Pop. C'est l'instant publicité. Voilà, je vous recommande aussi à la librairie de prendre ce magazine. Alors, 1918 à 2018, guerre mondiale dans l'imaginaire de science-fiction. À quoi ça vous fait penser qu'on lit? On relie la guerre mondiale et la SF, Laurent Genefort.
À quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux Things to Come de Wells. En fait, depuis le début, en fait, il y a toujours eu la guerre dans la SF. Depuis Ronnie est né, les hommes se font la guerre tout le temps. Et dans l'historique, en fait, le genre de la SF, il a toujours été littéraire. Il a toujours été imprégné de guerre, moi j'ai l'impression, parce que d'abord les auteurs de SF ont connu, le genre a connu, et dont certains auteurs de SF ont connu les deux pires carnages guerriers du XXe siècle, les deux guerres mondiales. Donc une grande partie d'entre eux savaient vraiment de quoi ils parlaient. Quand dans la Légion du Temps, il y a des guerriers qui se font enlever juste avant d'exploser sur des mines pour aller rejoindre sont extraits du temps pour aller rejoindre une légion temporelle pour ne pas qu'il y ait de paradoxes temporels liés à leur mort, etc. C'est écrit par un écrivain qui avait fait la guerre. Donc il y a aussi La Guerre éternelle de Haldeman. Même si ce n'est pas une guerre mondiale, mais en tout cas, c'était le prolongement, finalement, de la Deuxième Guerre. Voilà, c'est quelqu'un qui avait fait la guerre et qui connaissait le coût en vie, quoi, et en souffrance. Donc, qui a lu de la SF a forcément lu, à un moment, une guerre exterminant des populations entières. On aime bien exterminer les populations entières en SF.
Patrick Dounet.
Moi, ça me fait rire que tu évoques Wells, parce qu'en fait, je crois que c'est peut-être la première remarque que j'avais faite à Loïc quand il m'a proposé ce sujet, c'est que ça me renvoyait forcément, à la guerre des mondes, au concept de guerre totale. Et voilà. Après, je pense que la jonction des deux, elle est, comme tu le disais, quoi, c'est quand même un thème majeur entre guillemets de la SF. Après, moi, ça m'a un peu renvoyé, l'aspect guerre mondiale à mon propre passé. En fait, j'ai un grand-père, donc moi je suis anglais. Mon grand-père a servi en Afrique du Nord et a fait la campagne d'Italie. En fait, il a été blessé à Monte Cassino. Et il m'a raconté une fois sa guerre, donc je crois que voilà, ça m'a peut-être fait penser à des choses plus intimes.
C'est aussi ce qu'on pense de guerre mondiale et science-fiction. On peut aussi facilement penser à l'Uchronie, qui est un des sous-genres dans la SF, et notamment cette fameuse question et si les nazis avaient gagné la guerre. Et c'est, on voit même encore maintenant, que ce soit dans les jeux vidéo, on pense à Wolfenstein pour les joueurs ici présents, on pense à ceux qui aiment la BD, à Bloc 109. On aime bien imaginer le réimaginer le pire, et pourquoi, vous, quel est votre avis sur cette idée quand même que la Seconde Guerre mondiale revient souvent, en tout cas comme un marqueur dans l'Uchronie et dans cette idée de et si ils avaient gagné la guerre.
Moi, j'ai pas trop de trucs sur la Deuxième Guerre mondiale, parce que d'abord, comme j'ai 50 ans, quand j'étais ado, la Seconde Guerre mondiale, on l'avait dans tous les films, c'était un peu la référence ultime. En fait, moi, très tôt, j'ai été intéressé par la Première Guerre mondiale, en fait. Et parce que tout était en germe dans cette guerre-là. Le massacre industriel, le racisme, tout y était, en fait. Et donc finalement, c'était presque une guerre d'anticipation de la deuxième, donc très SF finalement. Puis même, c'était la première guerre avec des tanks. Enfin, c'était une guerre où la technologie, avec de la guerre chimique, c'était l'entrée de la guerre dans l'horreur technologique réellement, quoi. Donc c'était une guerre qui m'intéressait plus, au point que la seule uchronie que j'ai faite, c'était une nouvelle qui s'appelait Tank, que j'avais fait il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, où j'imaginais que la Première Guerre mondiale ne s'arrêtait pas en 1918, qu'elle continuait en fait à l'issue d'une série de revers des Alliés, et donc on se situait dans les années 20 ou 30, je me rappelle plus exactement, mais où les bombes atomiques ont été découvertes, les cités se sont enterrées et l'Europe est globalement vitrifiée. Mais c'était aussi une façon de parler de l'antisémitisme, où c'est les Juifs qu'on envoie comme courrier entre les villes. Donc c'est pas grave s'ils sont irradiés. Et voilà. Donc voilà à peu près ma seule expérience d'uchronie pour le moment. Et puis une autre. Effectivement, j'en ai fait une autre. Ce qui s'appelait l'affaire Marie Curie, où là, pour le coup, c'était un peu semblable. C'est-à-dire que, pareil, c'est une guerre qui n'en finit pas. Une Première Guerre mondiale qui n'en finit pas. Et là, on est justement dans l'expérimentation de la guerre, où les Allemands ont fait exploser leur première bombe atomique en Pologne. Et des irradiés sont exfiltrés de Pologne et étudiés par Marie Curie pour savoir ce que c'est que cette bombe, quoi.
Patrick Doudnet.
Même question. Je pense que, pour résumer les choses un peu simplement, c'est genre j'ai toujours peur de mésattribuer les citations parce que c'est un peu ma spécialité, mais je crois que c'est Brecht qui disait « Le ventre d'où a surgi la bête immonde est encore fécond ». C'est lui, hein. Je pense que, tout simplement, parce que c'est un clivage, la Seconde Guerre mondiale est née d'un clivage idéologique qui est encore clairement d'actualité aujourd'hui. Voilà, il suffit de regarder ce qui vient de se passer au Brésil pour capter que finalement le terreau idéologique de la guerre planétaire, voire totale, enfin, en tout cas contre une partie de l'espèce qu'on désigne comme l'ennemi, elle est présente. Elle a jamais cessé d'être présente en réalité depuis la Seconde Guerre mondiale. Puisque très rapidement, c'est devenu. Donc l'ennemi, c'était non plus le nazi, je parle d'un point de vue occidental, hein, mais c'est devenu donc le bloc communiste. Puis ensuite, c'est devenu le terroriste. Puis là, on attend avec impatience la suite.
Sur, en tout cas, pour revenir vers l'Uchronie et plus pour le public, je vous recommande Vastika Knight, qui est sorti chez Pocket, qui est une des premières Uchronies, qui est sortie en 1937, et donc qui a été écrite en Angleterre, et qui imaginait la victoire de l'Allemagne nazie, mais 400 ans après, ou 500 ans après. Et ce qui était très intéressant dans cette Uchronie, qui est en fait une dystopie et qui est catastrophique, c'est de voir qu'en 1937, la personne qui avait écrit Svastika Knight avait prévu tout ce qui allait se passer. C'est à qu'on lit maintenant, c'est totalement dingue, parce qu'on pensait que ce serait écrit en 2018. Et en fait, non, la personne avait étudié avec attention les programmes nazis et s'était dit, bon, bah voilà, on va imaginer que ça va se passer. Et qu'est-ce qui va se passer après ça, 400 ans ou 500 ans après? Donc c'est un livre que je vous recommande. Tu as parlé de la Première Guerre mondiale, mais c'est vrai que, en tout cas dans l'imagerie populaire ou dans la pop culture, finalement, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre où il n'y a pas grand-chose. On pense à quelques films ou autres, mais comparé à la Deuxième, qui a été vraiment utilisée à fond dans le cinéma américain, dans les jeux vidéo, dans la bande dessinée, la Première reste finalement un sujet peut-être pas tabou, mais où moins d'auteurs vont aller s'essayer.
Bon, c'est historique, hein. Je pense que c'est juste que c'était une guerre européenne, quand même, centrale, de façon centrale. Et la Seconde Guerre mondiale était peut-être plus réellement mondiale. Et puis surtout, les vainqueurs ont apporté leur imaginaire. Et comme les Américains nous ont libérés, eh ben, ils ont apporté aussi les récits de la Deuxième Guerre. Et voilà, quoi. C'est tout bêtement les aléas historiques. Quoi, tout bêtement, voilà.
Il y a peut-être aussi quelque chose de technique, de très basique. C'est aussi que c'est une guerre qui a quand même tué, je crois, un tiers de la population masculine de l'Europe, dont pas mal de penseurs, en fait, et de gens qui auraient peut-être pu être des témoins de cette époque, mais qui ne l'ont pas été, du coup.
10 millions de morts et 20 millions de blessés environ.
Oui, voilà, c'est ça.
Et mais aussi, on a aussi cette vision de guerre mondiale comme d'affrontement, mais aussi, là, et tu l'as un peu évoqué, la guerre idéologique qui a duré et qui peut-être même, ça dépend des gens, mais qui continue aussi à durer. Donc il y a aussi sur deux aspects qu'on peut parler de guerre, et dans la science-fiction, on a aussi repris ça, qu'on pense aux années 50 ou les années 60, avec la guerre froide, ou qui a été aussi source d'inspiration. Notamment, on pense à l'invasion des profanateurs de sépultures ou autre, ou cette idée de zombie, où certains font des analyses entre cette idée de bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Laurent.
Oui, en fait, c'est instillé l'idée que une idée très machiavélique, quoi, finalement, qui est que on est entre deux guerres, je veux dire que quand c'est pas la guerre ouverte, on est dans une guerre soit commerciale, soit la guerre froide, et que finalement c'est on est toujours plus ou moins en guerre contre quelque chose. En fait, c'est ça peut-être la leçon du démantèlement des blocs, ce qui a quand même changé beaucoup la donne, même au niveau de la guerre mondiale. Pendant quelques années, dans les années 90, on s'est dit il y aura plus de guerre mondiale. Il y aura plus que des petits petits épisodes qui finiront peut-être par s'éteindre de soi-même. On sortait de l'utopie cyberpunk qui était celle de la fin des nations, parce que quand même il y a quand même deux mamelles de la guerre, hein, c'est la religion et le nationalisme. Et voilà, on se disait tiens voilà, il y avait une idée de l'idée du progrès, les restes mourants de l'idée de progrès qui était que voilà, ça finira par s'éteindre. Et en fait, non, il s'est passé exactement l'inverse, en fait. On s'est juste balkanisé, quoi. Donc la guerre, elle sera peut-être, voilà, elle partira, au lieu de partir de deux blocs, elle peut partir maintenant de n'importe où et puis s'exporter très bien, quoi.
Puis je crois qu'on l'a finalement, du coup, on est aussi dans une dynamique où elle va être de moins en moins maquillée idéologiquement, puisqu'en gros, clairement, là, on s'oriente vers c'est des guerres de ressources, hein, ce qui se passe en fait. Enfin, on reprend les interventions de nos forces armées au Moyen-Orient. C'est clairement des guerres qui sont menées pour des raisons essentiellement économiques. Évidemment, il y a le discours auquel je pense pas que grand monde adhère sur l'exportation de la démocratie et de la libération des peuples. La réalité, c'est qu'on va là-bas pour que nos multinationales puissent se gaver. Enfin, tout le monde le sait, quoi.
La notion de Troisième Guerre mondiale est aussi très présente dans la science-fiction et à différents niveaux. Elle peut être post-apocalyptique avec l'écologie. Elle peut être, et puis même aussi, on peut de penser au space opéra, qui et donc là, Laurent peut aussi en parler, cette idée de guerre aussi totale qui se situe dans l'espace.
Oui, alors sur les auteurs qui ont... alors, il y a dès 1945, en fait, il y a des récits sur la Troisième Guerre mondiale et des récits d'anéantissement total de la Terre. Je pense à B.R. Bruce, qui avait écrit Et la planète sauta, qui est le premier récit français sur la bombe atomique, en fait. Alors lui, il n'appelle pas ça comme ça, hein. C'est des bombes qui sont capables d'exploser une planète entière. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc il imagine un récit, en fait, ce qui paraît très classique maintenant, mais une sorte de boîte noire qui est récupérée sur une comète qui s'écrase sur Terre, un astéroïde qui s'écrase sur Terre. Et dans cette boîte noire, il y a les mémoires d'un des sages d'une planète. Et la planète, en fait, on va s'apercevoir que c'est la ceinture d'astéroïdes qui avant était une planète où les gens se sont exterminés. Donc via une substance qu'on suppose être de l'uranium enfin qu'il appelle pas ça comme ça, mais voilà, donc c'est et en 1945 ça a été écrit. On ne sait pas trop la période, mais de toute façon c'était tellement dans les tuyaux que de cette idée de trouver une bombe qui puisse anéantir une ville entière, voire un pays entier, c'était déjà imaginé dans la SF depuis tellement longtemps, depuis les pulps en fait, à tel point qu'on a, je sais pas si c'est un mythe ça, mais que en fait il y avait des plans qui auraient été, enfin en tout cas une description très précise de la bombe atomique qui était parue dans Amazing ou Astounding Stories, enfin un de ces pulps là, et qui a vu du coup débarquer le FBI dans les locaux pour voir s'il n'y avait pas eu un truc d'espionnage, mais de toute façon c'était déjà imaginé depuis bien longtemps. La SF elle adore la guerre, hein, parce que c'est un terrain d'expérience et d'inventivité. L'humain, il est très très fort pour inventer des trucs sur se tuer, faire l'amour, voilà, les trucs essentiels quoi.
La base. Après, est-ce que c'est peut-être pas du coup ça, enfin l'héritage finalement de la Première Guerre mondiale par rapport à l'influence de ce conflit-là sur la SF, c'est que peut-être c'est pour la première fois l'humanité est arrivée dans un conflit où il y a eu des avancées technologiques pendant le conflit qui sont arrivés. Tu parlais du char tout à l'heure, enfin, l'arrivée du char d'assaut sur le champ de bataille, c'est quelque chose qui est jamais arrivé en fait par la suite, à part peut-être avec la bombe atomique. Et encore, je pense que comme tu disais, c'est des choses qui avaient été du coup théorisées et dont la SF s'est emparée suite à ça. Et je pense que, enfin, j'essaie de réfléchir, hein, mais je vois pas tellement, et peut-être que je me trompe, mais avant la Première Guerre mondiale, on n'a pas vraiment une littérature de science-fiction qui a cette qualité prophétique entre guillemets, ou en tout cas qui essaye d'imaginer ce que l'avenir de la tuerie va être, alors que c'est le cas pour le coup après.
Oui, parce que en fait, déjà il y a le fait qu'à partir de qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait encore des terra incognita. Il y avait encore l'idée que l'humain pouvait se réfugier quelque part, qu'il y avait une sorte de porte de sortie. À partir du moment où après-guerre, on a photographié la Terre en haute altitude avec la courbure, après, dans les années fin des années 50 ou début des années 60, on a photographié la Terre. Même si d'ailleurs c'était les premières c'est les V2 en fait qui ont on a pris les premières photos où on pouvait voir quasiment la Terre entière, enfin on pouvait au moins prolonger le cercle. Donc il y a eu cette espèce d'idée que ça y est, on était dans un monde fini, fermé, et donc toute l'espèce pouvait y passer, qu'il y avait peut-être pas avant, qu'on se rende compte qu'on était dans un vaisseau spatial très grand, mais un vaisseau spatial quoi, dans lequel on pouvait, et je pense que ça a pris genre une génération pour qu'on en tire les conséquences, qui sont que on peut s'exterminer joyeusement quoi.
Et puis pour faire écho à ce que tu disais Patrick, c'est vrai qu'avant dans les premiers livres de science-fiction, on peut penser assez facilement à Jules Verne et ses féeries scientifiques entre guillemets, ou même je pense à 20 milieux sous les mers, hein, un des romans de Jules Verne les plus traduits, les plus connus, le Capitaine Nemo a une vision extrêmement pessimiste sur l'écologie ou sur comment l'homme traite la planète, mais il y a quand même une dimension un peu de féerie. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec par contre H.G. Wells dans La Guerre des Mondes, c'est le monde, on va dire, résiste ensemble, crée une certaine cohésion, ou tente de créer une certaine cohésion, mais qui est envahie par des martiens. Donc en effet, on voit aussi clairement dans les auteurs de SF, il y a un avant et un après, et puis assez rapidement 1984 qui arrive en 49 et qui aussi continue à évoquer la guerre mondiale, entre les deux blocs, enfin entre l'Eurasia, l'Océania. Est-ce que la guerre est aussi importante dans la fantasy, puisque tu es aussi un auteur de fantasy? Est-ce que cette notion de guerre, elle est aussi importante dans ce genre-là? Est-ce que c'est que l'apanage de la SF, la guerre?
je pense que la de toute façon, comme disait Laurent tout à l'heure, comment baiser et comment se flinguer, c'est la base d'une histoire en réalité, quoi. C'est les deux ressorts narratifs les plus fréquents, la violence et l'affectivité. Donc, je pense que sont des thèmes qui, pour le coup, sont, je vois pas tellement de genres littéraires qui échapperaient à la caractérisation de ça. Après, c'est vrai que c'est peut-être plus présent en fantasy dans la mesure où, à la fois historiquement, c'est un genre qui hérite plutôt d'une vision très moraliste du monde, donc qui est dans un peu la réinterprétation de nos mythes à nous finalement, enfin de nos mythes fondateurs, donc le combat entre le bien et le mal, en gros, c'est un peu la fondation du genre s'appuie là-dessus. Et même ensuite, en fait, quand clairement on est parti sur un modèle philosophique on a des modèles philosophiques qui sous-tendent le récit qui sont clairement d'héritage plus matérialiste. On use quand même de la guerre comme levier, par exemple, pour parler du problème que peut être la guerre, ou pour dénoncer justement des situations de conflit. Enfin, je pense à R.R. Martin qui là-dedans, à mon sens, est complètement emblématique de ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans une lecture absolument amorale du monde et qui use de la guerre à la fois comme d'un outil narratif pour faire avancer ses personnages, mais aussi qui a un discours relativement critique là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme pouvait l'être quelqu'un comme Tolkien, qui, malgré le fait qu'il avait fait la Première Guerre mondiale et qu'il avait été ressorti extrêmement marqué de ça, on a quand même une forme de guerre sainte dans son œuvre, enfin en tout cas de guerre nécessaire. R.R. Martin, clairement, c'est la guerre, elle apparaît pour ce qu'elle est, c'est-à-dire des jeux de pouvoir entre les puissants, point, quoi.
Laurent, sur cette analyse entre fantasy et SF, sur cette importance de la guerre.
Ouais, alors ce qu'apporte la SF, c'est peut-être un côté spéculatif. Et donc, qui apparaît prophétique sur certaines idées, quoi. C'est quand on voit, je sais pas, dans La Guerre mondiale numéro 3 de Jacques Spitz, qui doit dater de 48, il imagine donc là, c'est la guerre des Russes contre les Américains. Et les Russes font une frappe sur Chicago, qui raye de la carte, et ils font, en fait, ils détruisent la couche d'ozone au-dessus de Chicago, et les rayons ultraviolets grillent la ville en dessous, en fait. Et c'est la première fois que les Américains sont touchés sur leur sol, et ça rappelle incroyablement le 11 septembre. C'est-à-dire une sorte de choc émotionnel américain qui leur donne le droit de tout faire et d'intervenir partout, etc. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire ça a libéré certains démons bellicistes. Voilà. Donc il y a des fois où juste des idées marrantes, du genre déplacer les Américains vont gagner évidemment parce que ils vont déplacer l'inclinaison de la Terre pour congeler la Russie littéralement. Donc la Russie va se retrouver au pôle Nord et ça va arrêter la guerre par manque de combattants. Et puis, comme idée rigolote, il y a plein d'idées rigolotes.
Faire une bataille de boules de neige, du coup.
Ouais, quasiment. Ils transforment des soldats en boules de neige, justement, puisqu'ils vont les congeler, les mettre dans des sortes d'obus surgelés, les envoyer se planter dans la banquise, et pouvoir les réchauffer à volonté, c'est-à-dire envoyer des contingents qui vont comme au micro-ondes, quoi. Hop, une minuterie, hop, et puis hop, ça dégèle les soldats qui vont affluer par vague. C'est cool.
Ouais, c'est ce que ça m'a évoqué, une sorte d'hommage caché au micro-ondes. Ouais.
Et puis c'est aussi relié avec, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le côté post-apocalyptique. On a aussi pas mal d'œuvres de science-fiction qui évoquent ça, la destruction de l'humanité ou de notre société telle qu'on l'en connaît, suite à une guerre totale. On pense à La Planète des Singes, notamment de Pierre Boulle, qui explique ça aussi, comme conclusion en fait de cette histoire.
Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi, pareil, je ne sais pas s'il y a ça en fantasy, mais ce côté une guerre mondiale où l'ennemi n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'on est en guerre, et c'est une sorte de, d'élément fondamental de la race humaine, d'être en guerre. Et ça va être contre des aliens, contre des mutants, contre des trucs qui viennent du sol, de l'air, de n'importe quoi, une maladie. Voilà, on est en guerre. Et ce qui annonce, et ce côté, j'allais dire, finalement, en fait, c'est une sorte de vision. C'est peut-être une métaphore du fait, est-ce que l'homme est en guerre contre son environnement ? C'est-à-dire que, est-ce que la destruction de l'environnement, même si elle n'est pas voulue, est-ce qu'elle fait partie de l'homme ? Ou est-ce que c'est une pure construction politique ? Politique, économique, c'est pareil. Mais voilà, est-ce que c'est une pure construction, quelque chose d'évitable ? Ou alors est-ce que, de toute façon, c'est dans la nature de l'homme de se trouver un ennemi, quel qu'il soit, et d'avoir à détruire, en fait ? Je crois que ça a toujours été le questionnement. Alors, il a été très vif juste après la Seconde Guerre mondiale, notamment chez des auteurs britanniques qui étaient très marqués par la notion d'entropie, etc. Donc, c'est souvent très pessimiste. Mais voilà quoi. Alors que les Américains, ils étaient plus. Il y a toujours une porte de sortie, je dirais, dans la littérature de SF américaine, qui n'est pas forcément dans la littérature européenne, en fait.
Ben ouais, enfin, en fantasy, je pense que non, du coup, enfin, on est clairement dans un modèle modèle littéraire qui est bâti sur c'est le modèle du mythe, en gros, quoi. Donc, on est clairement dans plutôt une bataille d'ordre moral, fondamentalement. Si on prend les grands bouquins du genre, en tout cas, jusqu'à une certaine époque. On est sur des oppositions fondamentales. Je ne sais pas si on va chez Tolkien, par exemple, les orques sont l'ennemi parce qu'ils sont fondamentalement mauvais. Et il n'y a pas de possibilité de rédemption. Donc l'état de guerre contre eux est de fait permanent, même si c'est un peu présenté autrement. Et même si Tolkien éprouvait sans doute lui-même un peu était peut-être plus nuancé dans ce qu'il pensait personnellement. Il a une phrase qu'il avait dit qui m'a beaucoup marqué, moi, à propos de son expérience de la Première Guerre mondiale. C'était « Nous sommes tous des orques ». Enfin, nous étions tous des orques. Mais ça n'empêche pas que, du coup, bah, dans son œuvre, on est quand même dans une essentialisation de l'autre qui rend le conflit inévitable. Donc,
On le voit aussi dans des romans de Planète Opéra ou de Space Opera type Dune, où la guerre prend une importance. Même si on ne la voit jamais, entre guillemets, écrite.
Alors, c'est assez bizarre, ouais. Le space opéra, je ne sais pas s'il se marie bien avec le thème de la guerre globale, parce que justement, il y a quelque chose dans le space opéra qui est une ouverture et qui rend le monde infini, quelque part.
C'est enfin, l'anthropologie
l'ouverture,
spatiale.
Voilà, l'ouverture sur l'espace, c'est précisément une porte de sortie, finalement, pour éviter l'extinction ou l'épuisement des ressources, ou le truc. Donc, soit c'est du space opéra limité à très très peu de planètes où se reposent des problèmes purement terrestres, qui sont la finitude du monde finalement, avec tout ce que ça implique de rationner les ressources, de se préoccuper de son environnement. Mais le space opéra, ça a été une formidable opportunité de ne plus s'occuper de l'environnement, justement. Parce qu'on peut aller piller le cosmos entier, on épuise les planètes les unes après les autres. On est une espèce... quand même essentiellement prédatrice, quoi. Donc c'était une manière. En revanche, oui, il y a le côté des guerres totales. Mais à ce moment-là, ça devient plus des métaphores. Voilà, là, c'est du space opéra plus métaphorique que réaliste, quoi. Et je pense que même si on fait de l'anticipation, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus dur de faire une guerre totale d'éradication de l'espèce humaine à partir des oppositions politiques. Parce qu'on est 7 milliards, qu'on croît de 90 millions de personnes par an, et qu'on ne voit pas une guerre faire 7 milliards de morts aujourd'hui. Faut compter que la Deuxième Guerre mondiale, elle en a fait 50 millions, ou 62 millions. Non, mais c'est même pas l'accroissement de la population annuelle. Il faudrait une guerre mondiale et demie pour juste stabiliser la Terre à 7 milliards. Donc on sait bien qu'une guerre, même mondiale, ne réglera pas la surpopulation, par exemple. Donc imaginez une guerre, et c'est pareil, un virus, c'est difficile aujourd'hui de penser, de façon réaliste en tout cas, à la disparition de l'homme, par exemple.
Le dernier bouquin, moi, de... Pardon, vas-y, je vais pas te couper.
Non, non, je t'en prie.
de guerre totale que j'ai lu, pour le, enfin, tu parlais de virus, c'est World War Z, qui par ailleurs est excellent. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui l'ont lu ou pas, mais c'est un livre dont j'ignorais tout à fait l'existence, en fait. Je connaissais l'existence du film, que je n'ai pas regardé parce que j'ai vu quelques visuels, ouais. Et il m'a semblé très mauvais.
Tu peux.
Voilà. Mais par contre, le livre, j'ai trouvé incroyablement audacieux dans sa construction et dans la manière dont, justement, c'est en gros un recueil de témoignages des survivants de la seule peut-être guerre mondiale aujourd'hui qui est possible en SF, c'est contre nous-mêmes, mais à condition qu'on soit plus vraiment nous-mêmes. Quoi.
C'est un rapport de l'ONU même.
Ouais.
Qui montre des expériences partout dans le monde de résistance et de progression de la maladie. C'est vécu comme une épidémie, en fait, avec la progression, la croissance, le pic épidémique, le reflux, et on devine que ça va devenir endémique. C'était super.
Et on voit aussi que ces questions-là de destruction de la planète sont aussi liées au pic, entre guillemets, avec la guerre froide. On pense à des œuvres comme Docteur Follamour où à la fin la planète explose plus ou moins. Il y a plein de films qui imaginent cet affrontement où la conclusion, la destruction de la planète, mais on va dire la fin du bloc de l'Est a ouvert aussi d'autres portes. Et est-ce que ça a peut-être pas conclu cette idée ou en tout cas d'avoir des récits où la planète explosait à cause de guerres entre les hommes?
Je sais pas. En fait, moi, j'ai l'impression que la fin des blocs ça a réintroduit la guerre mondiale dans le cours des événements normaux. C'est-à-dire qu'on sait que ce sera pas l'apocalypse, mais ça peut être une apocalypse très lente. C'est le retour de l'histoire, en fait, avec un grand H. J'ai eu l'impression la fin des blocs et la fin de l'apocalypse nucléaire classique, quoi.
C'est ça. Après, on est plus sur, et on en a parlé un petit peu en début de conférence, sur les guerres dites idéologiques et qui là deviennent mondiales. Et on le voit de plus en plus.
Je pense qu'avec l'uniformisation culturelle occidentale qui est mondialisée, on se retrouve avec des visions du monde qui se ressemblent de plus en plus. Et donc, de fait, des oppositions idéologiques pour les résumer très, très succinctement, en gros, serait le progressisme contre la réaction. Et j'ai envie de dire, c'est juste une mécanique sociale ordinaire, presque, mais qui du coup se retrouve effectivement avec la mondialisation globale, qui se retrouve globalement partout. Ouais.
Est-ce que la science-fiction peut apporter des solutions, Laurent?
Des solutions, peut-être pas, mais en tout cas, elle a le mérite d'explorer les possibles, en fait. Donc de poser la guerre comme une hypothèse. Et d'explorer les différentes voies possibles. Je suis pas sûr qu'elle innove énormément dans la résolution. C'est des résolutions qui sont souvent politiques, une des caractéristiques de l'ASL, c'est qu'elle rend visible ce qui sous-tend nos sociétés, les mécanismes anthropologiques et sociologiques de la société. Et je pense que c'est là qu'il faut chercher, quoi. Et là, c'était présent dès Wells, dès l'origine. C'est ça qui est fort. Et chez Rony aussi, d'ailleurs.
Patrick, la fantaisie peut apporter des solutions, ou la SF?
Alors ça, je n'en sais rien. Enfin, je pense que à partir du moment où on écrit de la fiction, que ce soit de la SF, de la fantaisie, ou même, je viens du noir, donc comme je le disais, dans le noir, il y a beaucoup de récits qui sont considérés comme appartenant au noir et qui dépeignent des situations de conflit total ou je sais pas, d'annihilation. Alors, je pense à La Route de McCarthy, par exemple, qui met en scène ce qui est en gros un traité de philosophie sur qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'espoir. Je pense que à partir du moment où on commence à considérer des possibles, Je dirais que peut-être la forme d'espoir inhérente à la spéculation, c'est celle du recul. Je pense que le point commun entre des gens qui sont prêts à se mettre en danger physiquement ou à se battre, ou qui pensent qu'il y a une solution dans la pratique de ça à grande échelle, c'est des gens qui ont besoin d'être dans une certaine, un certain état d'esprit. Et il me semble que l'exploration des possibles via la fiction, c'est quelque chose qui apporte de fait qui permet de relativiser de façon obligatoire sa propre condition. Et ça, c'est quelque chose, c'est peut-être le pas numéro un vers davantage d'intelligence, quoi.
Comment on écrit la guerre dans la SF, Laurent, qu'on imagine des conflits, comment on fait en tant qu'auteur?
Alors moi, comment je l'ai mis en scène? J'avais mis une guerre entre les dents au mal, une sorte de guerre mondiale puissance 10 entre l'humain et les chiles, qui est une espèce non humaine avec laquelle les humains se chicorent énormément parce qu'ils se ressemblent beaucoup, alors du coup ils se détestent. Et donc j'avais fait une sorte de guerre de tranchées, de guerre de 14-18, mais avec une sorte de front, mais qui s'étend sur 300 000 km, parce que c'est une surface, c'est pas une planète, on est dans une sphère de Dyson, dans une grosse coquille qui est environ un soleil, donc la surface habitable est absolument démentielle. Et donc tout est, voilà, c'est du space opéra, c'est-à-dire tout est plus grand, y compris le front, et donc il y a des milliards de gens engagés dans cette guerre-là. Et donc j'avais multiplié par X le nombre de victimes. Ça, c'est le space op. Donc il y a le space opéra. Là, au moins, les guerres ressemblent à quelque chose, quoi, dans le space op. Mais maintenant, oui, moi, ma vision de la guerre, elle a été de la guerre sur Terre. Elle a été, je crois que j'ai vraiment fait une réflexion dessus dans Point Chaud. Ou pour le coup, qui est un terme militaire de toute façon, Point Chaud d'ailleurs, et où justement on était dans une terre chaotique avec où finalement tout le monde est en guerre, mais c'est des guerres de basse intensité. Voilà. Alors des fois ça atteint des pics, alors ça devient chaud, mais le plus souvent et finalement ce qu'il faut c'est essayer de que ça reste dans des limites acceptables. Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression que notre monde, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le rôle de l'ONU, c'est que ça reste dans des limites acceptables, que ça reste à l'intérieur d'un territoire sans baver trop sur un autre, etc. Et maintenant, on en est à, voilà, c'est du, on est dans une Point Chaud. Ça retranscrivait ma vision à l'époque de l'état des relations internationales et des façons de régler les trucs internationaux qui étaient de mettre des patchs un peu partout en espérant que voilà, ça, hop, ça fuyait quelque part, on mettait un doigt et hop, ça refuyait quelque part, hop, on mettait un autre doigt et puis au bout d'un moment ça peut péter quand même parce qu'on a mis on a plus assez de doigts. Voilà.
Et toi Patrick, aussi dans l'enfant de poussière, le personnage principal est, on va dire, est amené vers la guerre.
Oui, le monde en fait est amené vers la guerre et ce que j'essaye de mettre en place dans l'enfant de poussière, c'est je sais pas comment définir ça, mais en tout cas une fantaisie qui existe pas par le regard qui est généralement celui des classes supérieures, mais plutôt par le regard de l'homme du peuple qui en gros subit le cours du monde qui est dicté par d'autres. Oui, on se retrouve à une époque où tout est très cohérent, hein. C'est un ensemble de circonstances politiques et économiques qui font que les primautés de Brune, donc qui sont le contexte dans lequel l'enfant de poussière se déroule, se disloque plus ou moins politiquement. On a un roi qui meurt, en gros un seigneur de guerre qui avait unifié un territoire. Et c'était histoire, historiquement, c'était un ensemble de cités-États plus ou moins indépendants qui se redisloquent après sa mort et qui reprennent en fait leur petite guerre territoriale. Et donc effectivement, le personnage subit ça au même titre que enfin, l'ensemble des personnes qui vivent sous le joug politique de ces gens-là, quoi.
Le sujet continue à plutôt bien fonctionner, le sujet de la guerre. On voit notamment, peut-être le public a peut-être lu le problème à trois corps de Liu Cixin, qui imagine donc une invasion extraterrestre qui va, donc une scientifique chinoise pendant la révolution culturelle envoie un message à une intelligence supérieure qui décide d'arriver pour essayer de la secourir, ou en tout cas au début on ne sait pas vraiment les raisons, et en fait l'humanité a quelques siècles pour se préparer à cette probable invasion. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'en fait les différents pays commencent à penser et à réfléchir ensemble, et ça reprend un peu l'idée de la guerre des mondes, mais de comment on va être capable d'unifier cette terre-là. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, il y a monsieur juste en vert qui avait levé le doigt en premier.
Hop, ça marche, c'est bon. Alors, je me posais la question, est-ce que la guerre ne sert-elle pas aussi pour tout recommencer, en fait? Je pensais particulièrement à Asimov et son cycle de fondation, avec la notion de psychohistoire, où finalement, à chaque fois que notre personnage, le Harry Seldon, réapparaît, c'est après ou pendant une guerre, justement, parce que ce sont les points d'orgue de l'histoire humaine. Donc, est-ce que la guerre n'est-elle pas aussi un moyen pour certains auteurs d'avancer ou de tout recommencer ?
Laurent ?
Je crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'auteurs en disant « il nous faudrait une bonne guerre ». Alors, il y a eu des auteurs bellicistes, mais ils sont plutôt anciens, en fait. De Camps, c'est plutôt ceux de la guerre nécessaire dont tu parlais, c'est-à-dire... c'est pas des bellicistes, mais pour eux, voilà, c'est soit quelque chose de mal mais nécessaire. Voilà, un mal nécessaire. On est plutôt dans cette rhétorique-là. Mais oui, c'est clair que les auteurs de l'entre-deux-guerres, il y avait des bellicistes chevronnés, quoi. Surtout par rapport à l'Allemagne, parce que la France et l'Angleterre, on craint le réarmement de l'Allemagne, en fait. Entre deux guerres, et il y a eu des récits de guerres futures, notamment contre l'Allemagne, qui a fait quasiment tout un sous-genre. C'était le thème de la guerre future, c'était un sous-genre de 1890 à 1935, en fait. Donc oui, il y a eu ça. Et la notion de guerre comme reboot, mais ça c'est plutôt pour les guerres apocalyptiques, c'est-à-dire avec nucléaire, tout ça, quoi. Il y avait Miller qui avait fait comme ça une sorte de cycle infernal de l'homme. Il avait lié ça à la technologie, lui. C'était un religieux, c'était un chrétien. Il avait lié ça à la technologie. L'homme crée des technologies, et avec l'ubris, il s'en sert. Il crée les conditions d'une apocalypse qui remet à zéro. Mais ça repart et vers la prochaine guerre. Et donc l'humanité, voilà. Donc il avait une idée assez pessimiste de l'homme comme une machine de guerre littérale, j'allais dire.
En fait, comme on disait tout à l'heure, en gros, la guerre, c'est clairement un ressort narratif qui date de la nuit des temps. En fait, c'est l'Iliade, c'est le conflit et l'essence même de nos récits. Enfin, est à la base même quand on apprend, en gros, à décortiquer un texte à l'école. Ce qu'on nous apprend en premier, c'est dépister l'élément perturbateur. Qu'en fait, c'est le, enfin, quelle qu'en soit la forme, c'est sûr que c'est une des fondations de nos schémas narratifs, et c'est pas étonnant que ce soit employé comme outil, alors soit comme contexte, soit comme gond narratif, mais dans les deux cas, je pense que, oui, en gros.
Et puis pour venir à Fondation. Puisqu'on l'analyse en fait dans le hors-série, c'est vrai qu'on évoque surtout la, la question de l'autodestruction et que Asimov s'est vraiment inspiré de l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Donc ça a été aussi un des livres qu'il a vraiment, enfin cette période historique-là et les livres qui tournaient autour l'ont beaucoup inspiré pour son cycle de Fondation. Et puis dans Fondation, on ne va pas tout spoiler, mais cette idée que on a de nombreux héros qui changent tout le temps pour différentes raisons de rebondissements a été une des causes qui expliquait pourquoi ça n'a jamais été adapté. C'est compliqué. Monsieur, il y a un micro juste à côté de vous.
Bonjour. Alors, je voudrais dire d'abord, nous avons parlé d'une. Le meilleur expert français en stratégie militaire, c'est le colonel Michel Goya, qui a un blog et qui a fait une analyse de Dune et de la guerre actuelle. Donc, Michel Goya, ça s'appelle La Voix de l'Épée. Et c'est vraiment un spécialiste. La formule de Brecht, ce n'est pas exactement ça, c'est une mauvaise traduction. Allez sur la page Wikipédia, vous verrez, il n'a pas parlé de bête immonde, mais ça a été traduit exprès, intentionnellement. Alors, la science-fiction russe est très intéressante à étudier aujourd'hui, puisque la prochaine guerre, autant contre nous, elle est déjà décrite sur le site internet yaouza.info qui vend des livres de science-fiction et vous allez être très surpris. Donc il faut s'intéresser à la science-fiction russe. Alors je voudrais dire, nous avons oublié un acteur essentiel dans la science-fiction, c'est Orwell et la guerre permanente. Non seulement elle est planétaire, mais le pouvoir politique a besoin d'un ennemi de substitution. Donc que pensez-vous de la guerre dans 1984, mon auteur préféré ? Merci.
Merci. Patrick, 1984.
Oui, moi je suis né en 1984, donc je suis un enfant d'Orwell. qu'est-ce que j'en pense ? Alors, je peux y réfléchir un peu.
Laurent, en attendant que...
je vais boucher le trou.
Merci.
En fait, c'est un... Pour moi, ce n'était pas tellement la... Comment dire ? Pour moi, la guerre n'est pas... On n'est pas sur le front. Donc c'est une rumeur de guerre d'une certaine manière dans 1984. C'est une guerre qui est dite, qui est pas faite. À la rigueur, elle a pas besoin d'exister. C'est une guerre. Il suffit que la guerre soit dans les têtes. Je pense que d'ailleurs c'est la leçon de 1984 pour que ça marche. Et il suffit de se dire, de se dire, on est en guerre pour être en guerre. Voilà. Enfin, et tout découle de voilà. Donc c'était une réflexion sur le. C'était une dystopie, mais une dystopie qui était populiste quand même, parce qu'elle a besoin de rentrer... Elle ne se passe pas du consentement du peuple, justement, cette dystopie-là. Il faut qu'elle rentre dans les têtes et qu'elle ait l'assentiment de la... Il faut que la guerre elle soit acceptée, sinon elle ne se fait pas. Et c'est ce qui s'est passé pour le Vietnam. À partir du moment où les Américains n'en voulaient plus de cette guerre, elle s'est arrêtée. Et donc il faut que les gens ils veulent se mettre sur la gueule, sinon ça ne marche pas. Et c'est la leçon de Orwell et c'est la leçon de toutes les dystopies guerrières en fait.
Pour rebondir avec monsieur, c'est ce qu'on compare et pareil dans leur série on compare Huxley, donc le meilleur des mondes et 1984 et en effet dans 1984 ce besoin de guerre et cette guerre totale permet et en fait là c'est ce qui explique pourquoi on a un régime comme ça et pourquoi c'est la cause aussi de ce régime-là et ce besoin de ce régime-là de vivre dans la guerre. Dans Le Meilleur des Mondes, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus de guerre, vraiment. C'est un espèce de monde autoritaire « soft », entre guillemets, mais plus personne ne se révolte. Et est-ce que c'est aussi, ça peut aussi poser question, est-ce que ce n'est pas ça le nec plus ultra, donc d'abandonner le conflit et la guerre et plus c'est dans une soit une guerre entre guillemets idéologique, intellectuelle ou et qu'on lit Le Meilleur des Mondes qui a été écrit avant 1984, ce qui est intéressant c'est qu'on voit vraiment notre société actuelle avec le soma, les médias ou autre.
Patrick, sur... Moi je dirais que c'est ça la véritable guerre dans 1984 comme tu le disais justement c'est un livre qui est construit sur la rumeur d'une guerre qu'on voit jamais. Par contre, la guerre qu'on voit, c'est une guerre que j'appellerais politique contre le peuple en fait, qui est menée par une caste, par la classe dirigeante en gros, et qui maintient le peuple dans un état de guerre, alors que l'état de guerre n'a pas lieu d'être. Et en fait, c'est ça la guerre. C'est une guerre qui est, c'est, en réalité, c'est la retranscription d'Orwell de la guerre des classes. C'est juste une métaphore.
Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, bah, monsieur, ça tombe bien.
Alors, je vous ai entendu parler des guerres des peuples, des guerres des nations, des guerres totales, mais qu'en est-il des guerres des corporations ?
Laurent ?
Ah bah oui, bah ça c'était un grand truc du cyberpunk. Ça a même été, je dirais, un de ses apports principaux, de montrer que et puis ce qu'avait fait Lehman dans Faust aussi, qui était dans cette même lignée, que à partir d'un certain niveau de pouvoir, un pouvoir, donc là, de transnationales, donc des pouvoirs a priori purement économiques, finissent par ne plus se contenter d'être des puissances purement économiques, mais vont vouloir acquérir des terrains, prendre des armées, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le cyberpunk, il a été très visionnaire, et c'est ce qui s'est passé aussi. Lehman aussi l'avait été avec l'achat massif. C'est ce qui s'est passé en Afrique, l'achat massif de forêts. Et de territoire, en fait, pour avoir des ressources, mais qui leur donne un pouvoir politique en même temps. Donc ça, oui, mais au final, ça devient finalement, ça, les transnationales deviennent une puissance comme une autre à combattre de la même manière. Le seul truc, c'est qu'elles sont hors sol, donc elles sont plus difficiles à circonscrire qu'une nation ou un bloc clairement. Identifié et repérable, on entre dans quelque chose de plus virtuel, mais voilà, ça reste de la guerre.
Ben après, enfin, précurseur, pas tellement, parce que enfin, si on prend par exemple, en gros, quand on dit précurseur, c'est pour parler de quelque chose qu'on voit pas chez nous, mais le fait est qu'on a par exemple, comment s'appelait cette United Fruit. Qui est une multinationale américaine et qui a été un des acteurs absolument majeurs dans les bouleversements géopolitiques qui ont eu lieu en Amérique latine. Et ça, c'était en...
Ah oui, oui, non, ouais. Je ne dis pas que ça préexistait à la réalité.
D'accord. Okay,
Total, la France-Afrique, Total, c'est bien connu.
Il y avait le découpage du monde en
tant que... Je ne sais plus dans quel pays d'Afrique c'était, mais il y avait eu un conseil des ministres qui s'était tenu dans les locaux de Total. Parce que le bâtiment était en réfection, je sais pas quoi. À tel point c'était Total faisait la loi, quoi. Voilà.
Merci pour votre question. Bah, c'est la fin de cette conférence. On retrouve Patrick en bas. Merci.